déclencheur. Tuto.
Bienvenue, bienvenue pour ce déclencheur duo. Vous savez sans doute, à moins d'avoir vécu sur une île déserte pendant les deux derniers mois, que les principaux fabricants de matériel photo sont en train de renouveler leur gamme de réflexes. Ça veut dire que dans les magazines photo et sur les sites d'actualité photo, on trouve beaucoup d'annonces, de tests, de modèles de pré-série, etc. Et si vous êtes comme moi, vous vous demandez sans doute, tiens, mais comment ça se passe en final? Comment est-ce que les marques informent la presse de la sortie de ces boîtiers? Il se fait que Nikon a eu la gentillesse de m'inviter à la Nikon School avec un certain nombre d'autres acteurs de ce qu'ils appellent la presse internet pour nous présenter leurs deux derniers boîtiers, le D3 et le D300. Et donc je vous emmène avec moi pour aller voir ce qui se passe. D'emblée, on va poser la question à Thomas Macaire, le chef de produit pro chez Nikon. Pourquoi cette rencontre?
Ça me semblait intéressant de présenter ces nouveaux produits à une population la plus large possible. Donc on sait qu'un certain nombre de personnes qui sont assez influençantes sur l'internet. On voulait proposer cette présentation, permettre à ces animateurs de blogs et de forums de pouvoir avoir des informations qui n'ont peut-être pas pu avoir jusque-là, et permettre également d'avoir une prise en main des produits un petit peu en pré-annonce, on va dire, par rapport aux présentations qui pourraient être faites un petit peu plus tard, notamment au salon de la photo.
Pour être franc avec vous, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, puisque c'était la première fois que j'étais invité à un événement de ce type. Mais vous avez peut-être lu, comme moi, dans Chasseurs d'images, des journalistes se plaindre du fait qu'en final, ces événements presse répètent de l'information qu'on trouve déjà sur divers sites internet et donc sont globalement inutiles. Alors, la présentation a commencé non pas à parler des appareils, mais à parler de la stratégie de Nikon. Il y a peut-être une lassitude qui s'installe si on entend ça à chaque présentation, mais moi j'ai trouvé ça fort fort intéressant. Parce qu'en final, on parle ici de système réflexe. Et quand on achète un système réflexe, on est quand même parti pour quelques années. On va sans doute renouveler quelquefois le boîtier parce qu'on aura un investissement en objectif. Donc ça me paraît pertinent de savoir, tiens, mais où est-ce que la marque que je choisis se voit dans 5 ans, ou est-ce qu'elle se voit dans 10 ans? L'exercice était intéressant, malheureusement trop limité, puisque Nikon refuse de pré-annoncer ses produits ou de moins nous donner des orientations techniques. Mais bon, vous allez l'entendre, ils sont ambitieux chez Nikon.
Alors je vais commencer par vous parler un petit peu de la stratégie de Nikon en termes de cible professionnelle ou de marché professionnel. Un objectif global de Nikon Monde, Nikon Corp, c'est d'atteindre 40% de part de marché en réflexe sur la totalité de la gamme réflexe, donc du D40 jusqu'au D3. Aujourd'hui en France, en valeur, on est à peu près on oscille entre 35 et 38. Certaines filiales sont largement au-dessus des 40% de part de marché, je pense à la Belgique par exemple, où Nikon atteint sur les produits, alors c'est uniquement sur les produits professionnels, mais ils atteignent je crois pratiquement 80-85% de part de marché en produits pro, donc c'est énorme. Et puis on essaiera également d'accroître notre visibilité. On va profiter de ces annonces et de ces produits pour se donner un nouveau souffle en termes d'utilisation professionnelle. La courbe que je vous présente est assez schématique encore. Elle retrace un certain nombre d'années dans la photo professionnelle avec deux marques essentielles qui sont Canon et Nikon. On sait que dans le monde de la photo professionnelle, il y a d'autres marques qui interviennent. On n'est pas forcément tout à fait sur le même segment, donc la bataille se fait plutôt entre Canon et Nikon. Dans les années 60, 70, 80, Nikon avait une perception très très forte vis-à-vis des photographes professionnels. Alors on pense bien évidemment à tout ce qui est reportage de guerre, tout ce qui était l'actualité dans ces années-là. Puis Canon a beaucoup beaucoup travaillé sur sa perception, sur ses produits, sur le rapprochement avec un certain nombre de photographes, et a notamment créé une mini-révolution avec le système EOS, la motorisation AF à l'intérieur des objectifs, donc essor de Canon à cette époque-là. Et puis dans la fin des années 90, le numérique arrive, Nikon est précurseur sur le numérique avec le D1. Et puis depuis, une perception des deux marques, Canon et Nikon, qui fait un petit peu défaut à Nikon. On est bien sûr là en termes de perception, c'est si on interroge les photographes professionnels en leur disant qui vous pensez que, entre Canon et Nikon, qui pensez-vous être la marque numéro 1 chez les professionnels? eh ben, on retire ce genre de ratio, 80%, 20%. Si maintenant on compare ces chiffres de perception à des chiffres sur la réalité des ventes, on n'a pas cet écart de 80-20, mais on est plutôt proche de 50-50 sur le marché européen.
Après cette introduction stratégique, on est passé au boîtier. Et effectivement, on n'a rien appris qui n'était pas déjà sur des peer reviews. Effectivement, l'intérêt d'une présentation de ce type-là, c'est qu'on peut voir. Et en particulier, ce qui, moi, m'attirait dans ces deux boîtiers, c'est le live view, la possibilité de photographier en utilisant l'écran arrière. Petite démo.
Alors, l'activation du mode live view se situe au niveau de la commande de sélection ici de mode. Donc, le mode prise de vue en vue par vue ou en continu, donc S. C'est, et puis le quatrième point, c'est LV pour Live View. À partir du moment où on a appliqué ce réglage-là, on appuie sur le déclencheur. On est sur On. On appuie sur le déclencheur et donc on a la visibilité via l'écran arrière de ce que voit le capteur. En fait, hein, ce qu'on voit sur l'écran arrière, c'est exactement ce que voit le capteur. Il existe deux modes de prise de vue, un mode à main levée et un mode pied. La différence entre ces deux modes là se situe essentiellement au niveau de l'autofocus. En fait, le mode de réalisation du point dans ce mode là c'est le même que sur un compact, c'est à dire qu'on va travailler en détection de contraste. Donc si on se positionne ici par exemple, hop, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est à dire je vais appuyer sur le bouton AF on pour faire le point. Le point est fait. Et par contre, il n'y a pas d'obstruction de la visée. Pourquoi ? Parce que c'est bien avec le capteur imageur qu'on fait le point. Donc deux modes complètement différents. Un mode à main levée avec lequel on va faire le point grâce au collimateur autofocus. Et un mode pied avec lequel on va faire le point directement sur le capteur imageur.
Et à propos, un modèle de pré-série, ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire qu'il n'est pas fini. Il y a des fonctions qui ne sont pas implémentées. On sait que tous les réflexes qui font la visée via le capteur ne peuvent le faire que pendant quelques minutes. Donc je pose la question, combien de temps sur le D3 ?
Il y a une temporisation qui est prévue aujourd'hui. La temporisation, elle n'est pas prévue dans les boîtiers de pré-série qu'on a. Donc on sait qu'il ne faut pas qu'on aille trop longtemps. On ne connaît pas la temporisation, je pense qu'elle sera de plusieurs minutes de toute façon.
Une autre différence avec des pré-reviews, c'est qu'on voit, c'est qu'on parle, c'est qu'on pose des questions. Et c'est vrai que quand ces boîtiers ont été annoncés, le gros titre, c'était l'arrivée du capteur au format 24-36. Quelque chose qui ne me paraît pas terriblement pertinent, je dois bien me dire. Je sais que c'est provocateur de dire ça, mais j'ai pas un attachement spécial à un format historique. Et je trouve au contraire que les plus petits capteurs faisant des plus petits boîtiers, ça a aussi un côté assez pratique. Mais bon, c'est une question de goût. Néanmoins, pendant la présentation, l'équipe de Nikon est arrivée à piquer ma curiosité.
Avec probablement l'information, l'innovation qui est la plus importante pour ces annonces, le format FX, le fameux 24-36. Mais bien sûr, l'intérêt principal, c'est d'avoir de gros photosites, de pouvoir monter en flèche au niveau des sensibilités, comme on va le voir. Ce qui est important de noter, c'est que ce format-là, le format FX, vient compléter le format existant, le format DX. Je vous parlais tout à l'heure de l'intérêt du D300 qui est au format DX et qui, du fait du format DX, a une compacité qui est autre que celle du D3 et qui va probablement intéresser un certain nombre de photographes professionnels qui ne souhaitent pas avoir un boîtier lourd, qui souhaitent avoir au contraire un boîtier léger qui puisse emmener un petit peu partout.
Après la présentation théorique, après les démos, c'est enfin le moment pour nous de manipuler les boîtiers. Et là, on retrouve un personnage qu'on connaît bien maintenant sur Déclencheur, Volker Gilbert.
Tu enregistres le bruit ? Ok, attends.
Ben, on vient de
c'est
découvrir.
Une mitrailleuse, hein ? C'est une mitrailleuse.
On vient de découvrir que Volker écrivait vachement vite à la machine. Clairement, ce qui attire le plus l'équipe de Nikon dans ce nouveau boîtier, c'est la sensibilité. En tout cas, Volker, il est impressionné.
En clair, j'ai jamais vu ça avant dans un boîtier réflexe. Surtout tenant compte du fait que Nikon propose enfin une sensibilité qui n'était pas atteinte jusque-là. Donc 12800 ISO, c'est effectivement énorme. Ça permet de prendre des photos dans des conditions les plus inespérées et inimaginables.
Et c'est vrai que cette sensibilité élevée, c'est le genre de chose qu'on lit rapidement, on n'y réfléchit pas beaucoup, mais le voir, c'est différent. J'ai fait une photo à 25600 ISO. Et je vous l'ai mise d'ailleurs sur le site de Déclencheur, www.déclencheur.com, pour que vous puissiez aller jeter un œil par vous-même. Le résultat est bruité, évidemment. On est dans le mode que l'appareil appelle H2, c'est-à-dire deux niveaux au-delà de ce que Nikon considère comme étant la limite raisonnable de la sensibilité de l'appareil. Elle est bruitée, donc. Mais on a connu des films aussi bruyants que ça, et il n'était qu'à, entre guillemets, 3200 ISO. Si on ramène l'appareil dans les plages raisonnables, et je regrette après coup de pas avoir fait toute la série avec toutes les sensibilités, si on le ramène dans des plages raisonnables, le bruit, il est quasiment insignifiant. Or, 25600 ISO, on est à la luminosité d'une bougie. Et l'équipe de Nikon Passion, elle en pense quoi ?
La fiche technique, ça fait peur. Hein. C'est vrai que dans les deux sens, vais-je savoir exploiter toutes les fonctionnalités de la bête et puis en même temps, il est capable de tout. Donc on se demande qu'est-ce qui va bien pouvoir lui résister en termes de prise de vue.
De première vue, moi, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est l'écran. Il est très grand. Qualité en nette progression par rapport au D2X.
Voilà, ça se passe comme ça, une présentation de boîtier chez Nikon. J'en reviens à la limite avec plus de questions quand j'étais parti, parce que cet aspect sensibilité, c'est quelque chose qui, à la limite, demande d'être vécu pour qu'on comprenne l'impact que ça a sur la photo. Et les 20 minutes à manipuler le modèle de pré-série, c'est certainement mieux que de lire la description sur un site ou l'autre. Mais ça ne remplace quand même pas une utilisation quotidienne suffisamment longue pour qu'on puisse vraiment se rendre compte par soi-même si ça a un impact sur la photo. Donc je serais vraiment curieux de voir les photos sur le terrain que ce type de boîtier va nous ramener dans les prochains mois. Et pour finir la journée, une petite discussion avec Thomas sur le Live View.
Alors le Live View, moi, c'est le truc qui m'enthousiasme sur cette génération-ci. J'avoue que j'ai toujours regretté la visée réflexe parce qu'elle est très... Pour certains types de photos, en tout cas, elle crée une distance par rapport au photographe. Et ce qui m'avait super plu dans mon premier numérique, qui était évidemment un petit compact, c'était le fait de pouvoir faire des photos, des portraits en particulier, sans avoir cette distance. Il y a des personnes qui disent c'est dommage de voir ça apparaître sur des réflexes. Quel est ton sentiment par rapport à tout ça ?
Alors dommage, je pense pas, parce que un réflexe reste un réflexe. On a une visée à 100% aujourd'hui en visée optique sur un D3 ou sur un D300. Donc l'introduction de Live View n'enlève rien à la visée optique standard, on va dire, ou usuelle. Non, l'idée c'est de proposer de nouveaux types de prises de vue. On sait aujourd'hui qu'avec un mode Live View avec lequel on est capable de faire le point, avec lequel on a une excellente visibilité puisqu'on a un écran qui est très défini et qui a une visibilité sur 170 degrés, on va être capable de faire des photos qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, à bout de bras, au-dessus d'un parterre de photographes, ou au contraire, de manière décalée, avec le boîtier qui sera pratiquement collé au sol, ou des choses comme ça.
Pour conclure, je vous parle du magazine Le Photographe. Le Photographe, si vous ne connaissez pas, c'est le mensuel de l'Image Pro. C'est un magazine de très bonne qualité consacré à la photo. Et ce qui me fait très plaisir, dans le numéro de septembre 2007, qui est d'ailleurs consacré à l'avalanche des boîtiers venant de nos fabricants, donc on retrouve un peu la même thématique, mais dans ce numéro de septembre 2007, le guide internet reprend un article sur Déclencheur. Et là, ça me fait très plaisir de voir Déclencheur présenté dans Le Photographe.